Good Morning Business, le grand débrief.
Il est 8h41, nos invités, vous, ils sont déjà dans le débat.
Ah oui.
Ils sont à fond. Irène Grenet, qu'on vous présente comme haut fonctionnaire et essayiste aujourd'hui. Marc Fiorentino, qu'on ne présente plus.
Non,
et Benaouda Abdedaïm non plus, c'est pas la peine
ça
de le présenter.
Intérêt.
Vous les connaissez
ça,
bien.
Ça n'a aucun intérêt.
On va commencer par cette situation qui inquiète tout le monde au Royaume-Uni. Jusqu'à Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui à l'instant vient de dire qu'il était inquiet de la situation britannique, jugeant que la situation actuelle, les annonces spectaculaires, notamment de baisse d'impôts de la Première ministre, ne marchaient pas. Benaouda Abdedaïm, le ministre de l'économie français qui s'inquiète de la situation économique au Royaume-Uni, c'est pas commun.
Ah non, c'est pas commun. Et puis, en essayant de revenir sur mes souvenirs de ces 30 dernières années, je n'ai pas souvenir d'une telle curée contre un État membre du G7.
C'est pour se venger qu'il soit sorti de l'Europe.
Parce qu'en fait, le signal, comme chacun sait, a été donné par le Fonds monétaire international dans un communiqué, là encore une fois, dont je n'ai pas souvenir, de dureté à l'égard de la politique budgétaire britannique, en expliquant que ce sont des mesures non financées. Mais surtout, la dureté, à la rigueur, ne provient même pas des Européens, mais des Américains. Les responsables, les uns après les autres, expriment leur extrême inquiétude. On a parlé il y a 48 heures du président de la Réserve fédérale d'Atlanta. Hier, c'était le directeur du Conseil national d'économie de la Maison-Blanche qui expliquait que la politique budgétaire britannique allait à l'encontre de la politique monétaire. Vous avez l'ancien secrétaire au Trésor, Larry Summers, qui dit que c'est extrêmement irresponsable ce qu'est en train de faire le Royaume-Uni.
Baisser drastiquement les impôts et augmenter aussi les subventions aux ménages.
Exactement, et surtout que ça ne soit ni financé, ni en phase avec la politique monétaire. Et on a l'impression d'une accumulation de reproches à l'égard, enfin envers le Royaume-Uni, qui est tout à fait sans précédent.
Marc Fiorentino, la semaine dernière, vous nous disiez tous ceux qui pensent que le Royaume-Uni, c'est comme la Grèce, que c'est fini, etc., se trompent.
Oui, je pense qu'ils se trompent complètement. Je pense qu'on a une curée. Alors, c'est l'Angleterre, hein. Vous avez raison, et c'est la sortie du Brexit, c'est quand même aussi un peu facile. Et puis, en fait, elle fait le truc à l'envers. C'est-à-dire qu'en ce moment, parce que l'histoire de ne pas être financé, personne n'est financé. Il me fait marrer, Bruno Le Maire, parce qu'il fait des discours, il s'inquiète de la santé des autres pays, mais il devrait s'inquiéter de la santé de l'économie française. Et en matière de dépenses non financées, on est pas mal non plus, donc je suis pas sûr qu'on puisse donner des leçons. Là, l'aberration qu'on a, c'est qu'ils sont à contre-courant sur la baisse des impôts. Le seul problème, en fait, c'est la baisse des impôts, parce que les aides aux ménages, les aides aux entreprises, quand l'Allemagne annonce ce matin qu'elle va faire 200 milliards d'aides aux entreprises non financées ou financées par de la dette, puisqu'on est tous financés par de la dette, bon, je veux dire, il n'y a pas d'aberration. Là où elle est totalement à contre-courant, et c'est pour ça que tout le monde se rue sur cette brèche. Et en plus, on est dans un contexte politique que connaît Benaouda nettement mieux que moi, mais qui est le contexte de pousser maintenant dans les sondages du Labour, hein, du parti d'opposition, qui se rapproche du milieu des affaires, inquiète cette baisse des impôts. La baisse des impôts, c'est totalement aberrant. C'est pas du tout le sujet des entreprises. C'est-à-dire que si vous allez voir les entreprises britanniques aujourd'hui, vous dites dans votre priorité, dans votre wish list, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous, ils vont pas vous dire baisser nos impôts. C'est pas le sujet.
Leur
sujet, c'est soutenir la consommation avec des plans de soutien, soutenir les problématiques de consommation d'énergie et de coût de l'énergie avec des plans de soutien pour les entreprises, plans de soutien pour les ménages. Donc aujourd'hui, on peut faire du non-financé en plan de soutien, on ne peut pas faire de la baisse des impôts, c'est hors sujet, c'est pas à la mode.
Irène Grenet, c'est le maillon faible, le Royaume-Uni, de l'économie européenne et mondiale ?
C'est difficile à dire. Ce qui est très important, c'est de voir combien la confiance, que ce soit, là vous parlez de la consommation, c'est totalement majeur, mais et également sur la politique et les politiques économiques qui sont menées. Le sujet aujourd'hui, c'est la confiance, et là il y a un déficit de confiance qui est majeur. Après voilà, on va suivre ça, mais c'est vrai, comme vous avez raison de le souligner, la prise de position d'un ministre français sur une politique économique du Royaume-Uni, c'est pas fréquent. C'est quelque chose de fort. Ouais.
C'est aussi le signal d'un déclassement du Royaume-Uni, tout de même. Ouais. Tout de même. Parce que, encore une fois, un communiqué du FMI où la secrétaire américaine du Trésor qui explique qu'elle met sous surveillance le Royaume-Uni, c'est quand même, encore une fois, Je n'ai pas souvenir d'un tel acharnement, effectivement, parce que et on a trouvé cette brèche-là qu'expliquait Marc Fiorentino. Et ce qu'on pardonne, par exemple, à l'Allemagne qui décide de s'affranchir de sa règle constitutionnelle en sortant de 200 milliards d'euros du budget.
C'est énorme, hein, c'est peut-être une mesure
mais plus d'orthodoxie
beaucoup plus spectaculaire
financière.
Que ce que prévoit. C'est-à-dire qu'on sort complètement du cadre, c'est plus l'Allemagne. L'Allemagne dont on a eu hier les chiffres d'inflation, c'est-à-dire que pour l'Allemagne, l'hyperinflation, c'est le traumatisme des années 20. Ils sortent un taux d'inflation de 10,9%, ce qui devrait les tétaniser. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de mener une politique restrictive, ils disent, ben non, on va remettre encore 200 milliards
d'emprunts. C'est plus l'Allemagne, vous avez
c'est
dit.
C'est plus l'Allemagne oui, qu'on a aimé et qu'on a connu.
Et contre l'avis du président de la Cour des comptes allemande, qui exprime ce matin son agacement, pour ne pas dire son courroux vis-à-vis de cette mesure. Là aussi, c'est une nouveauté de ces décennies passées.
Alors, il faut dire qu'il y a le dossier d'énergie, évidemment, qui entraîne cette hyperinflation, notamment en Europe. Un mot peut-être, Benahouda, là-dessus, parce que quand on parle aux grands patrons de grands groupes mondiaux de cette crise de l'énergie, ils nous regardent, ils disent, mais quelle crise de l'énergie aux États-Unis, il n'y a pas de crise de l'énergie. La consommation est repartie, on n'a pas de problème particulier de prix d'approvisionnement. Le problème de l'énergie, c'est un problème européen. C'est vrai, Benahouda ?
Ah, mais tout à fait, c'est un problème européen. Et puis les acteurs de marché industriels et financiers dans le secteur énergétique disent aux Européens, c'est votre faute, vous n'avez pas eu de projection stratégique dans ce domaine-là, donc vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même, finalement.
Marc ?
Oui, alors je ne dirais pas que c'est qu'un problème européen et pas américain. Je dirais qu'on est beaucoup plus touché que les Américains. C'est normal, on n'a pas d'indépendance énergétique.
Non, mais regardez aux États-Unis, le pétrole a descendu sur les marchés mondiaux. Ils n'ont pas de problème de gaz, de coût du gaz.
On a un pays qui est indépendant d'un point de vue énergétique et une zone économique qui, elle, ne l'est pas. Ouais. Après, le prix de l'énergie aux États-Unis a quand même un impact sur la consommation. C'est pas parce qu'on est autonome d'un point de vue énergétique que le prix des matières premières n'augmente pas et que ça a pas un impact. Ça a eu un impact énorme. Sur la consommation, ça a un impact énorme, même aux États-Unis.
Aux États-Unis, la consommation est repartie. Vous avez vu les chiffres, là, parce que il y a eu les salaires ont augmenté nettement et la consommation est repartie. Tous les groupes, on était encore avec Interparfums. Ouais. Ils nous disent, on est à plus 20, plus 25%.
Absolument.
La consommation.
Absolument.
La vengeance, la consommation vengeresse.
Revenge.
Enfin, ils disent Interparfums, on peut pas faire de prévision à plus de 3 mois. D'ailleurs, on regardera même pas la stratégie avant la fin du mois d'octobre.
Et ils ont bien raison, parce qu'on est dans le brouillard, et le brouillard n'est pas simplement anglais.
Irène, vous êtes dans le brouillard aussi ou pas? Tout change, l'Allemagne n'est plus l'Allemagne, le Royaume-Uni, le FMI s'inquiète, le marché publicitaire s'effondre, enfin, c'est un changement, des changements majeurs.
Oui, c'est vrai. Alors, non, juste un mot sur l'énergie, c'est ce qui est bien, enfin, donc aujourd'hui les ministres se parlent à nouveau à propos des mesures à Bruxelles, des mesures qui pourraient être prises par la Commission. Je pense qu'il y a un sujet sur lequel, même si on a été souverain aujourd'hui, il faut peut-être nuancer, s'il y a un sujet sur lequel la solidarité européenne a un sens, c'est quand même celui-ci. Les pays ont des mix énergétiques qui sont différents. Ça va être évidemment un point très important. Non, moi, ce qui m'intéresse sur la question de l'énergie, je trouve que c'est passionnant, et que ce soit au niveau national comme au niveau européen, c'est qu'il y a finalement, il y a deux types de mesures. Il y a des mesures contraignantes sur la production, donc c'est tout ce qu'on connaît, les plafonnements des prix, éventuellement les mesures de redistribution que doivent faire les producteurs d'électricité. Et puis, il y a les fameuses mesures sur la consommation, la fameuse sobriété. Et ça, c'est beaucoup plus difficile.
On est très en retard en France.
Et c'est très difficile à réglementer. Ça ne se réglemente pas. C'est toute la difficulté du travail sur la consommation. Ou bien, c'est des mesures extrêmement fortes, bon, 19 degrés, etc. Ça, on le sait. Ou bien, il faut jouer quand même sur des effets de tendance, des effets de mode. Et je pense que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus.
Ça, c'est votre spécialité. Comment on fait en sorte que Marc Fiorentino, vous qui connaissez la pub, vous étiez l'ancienne patronne de la pub à France Télévisions, pourquoi ?
Porte un col roulé.
Et alors, comment vous faites justement pour éviter ces âneries et ces histoires de col roulé et changer le comportement de Marc à travers la publicité, lui faire en sorte que la transition énergétique soit désirable ? Vous avez une minute.
J'ai une minute pour dire que non, pour moi, la publicité a un tout petit rôle à jouer. Elle a pas la réponse finale, mais elle a un tout petit rôle à jouer parce que, encore une fois, la production, ça se réglemente, la consommation, c'est et du pouvoir d'achat et du désir. Et le désir, c'est un peu le travail de la pub.
Dans ce qui concernant les prix de l'énergie, on va encore débattre aujourd'hui à Bruxelles et mardi, parce que ça ne va pas s'achever aujourd'hui entre ministre de l'énergie sur l'idée de plafonner le prix du gaz. Mais mettons-nous à la place de pays comme le Nigeria, l'Algérie l'Égypte qui exportent du gaz vers l'Europe. Eux ne demandent pas qu'on plafonne les prix des céréales qu'ils achètent à la France ou à la Roumanie. Donc il y a aussi le rappel et ça va venir de principe de marché de base que c'est une question d'offre et de demande. Et l'idée qu'on peut décréter unilatéralement un plafonnement des prix général parce que ça affecte sa population, son électorat, ça ne relève
dépend de la puissance du client.
Mais en l'occurrence, ce sont les vendeurs qui ont la main ces temps-ci. Donc la preuve, l'Algérie vient de renégocier à la hausse ses contrats avec l'Espagne et l'Italie, ses contrats de gaz, en essayant d'aligner les contrats de long terme sur les contrats spot, sur les contrats au comptant.
Alors dans ce contexte extrêmement incertain, les marchés financiers ont marqué le pas en septembre. Marc Fiorentino, on peut même dire septembre noir, on est déjà à moins 8% sur le...
On est quasiment à 10%.
Ouais, on est quasiment à 10% vers la séance d'aujourd'hui qui est la dernière du mois. C'est pas fini ou...
Alors c'est déjà du jamais vu hors événement ponctuel. Hein. Ce type de crack, c'est-à-dire 10% en un mois, alors qu'on parle pas de crack, hein. On parle de baisse des marchés. Le mot crack, on l'entend pas, hein. Mais 10% de baisse, c'est totalement dingue. Et finalement, en fait, ce qui est complètement fou, c'est pas le niveau des marchés, c'est la vitesse à laquelle le réajustement des taux d'intérêt s'est fait. Ouais. En fait, la baisse des marchés, ce n'est que la résultante de la hausse des taux d'intérêt. On est passé d'un environnement de moins 0,70% de taux d'emprunt pour l'Allemagne, à 10 ans, qui est le taux de référence, à 2,20%. C'est-à-dire qu'on a eu 3% de réajustement. Alors, les gens ne se rendent pas compte, 3%, parce qu'on est plus habitué au marché action qu'au marché obligataire. Mais 3% sur le marché obligataire, ça veut dire 30% de baisse sur le marché obligataire. Et donc, derrière, ça entraîne automatiquement un réajustement et un réalignement de tous les prix. C'est-à-dire que vous devez prendre tous vos modèles, si vous faites de l'analyse financière.
La réactualisation avec
et vous réactualisez, vous dites au lieu de mettre moins 0,5, je mets 2,5. Mais si au lieu de moins 0,5, vous mettez 2,5, c'est automatique. Hein. Ouais. Votre prix baisse de 25%. On va le voir aussi dans l'immobilier. Donc on est en train d'assister à un réajustement. Ce qui est fascinant, c'est la brutalité du réajustement. C'est-à-dire, ce qui est fascinant, c'est que les banques centrales qui ont pensé pouvoir toujours tout faire et maintenir les taux artificiellement à zéro pendant trop longtemps, elles ont soulevé le couvercle et elles ont laissé se faire ce réajustement de façon extrêmement brutale.
Un mot du dossier du week-end, Irène Grenet, le dossier M6. Apparemment, Bertelsmann serait ce week-end à Paris pour voir c'est potentiellement les offreurs. Est-ce que vous pensez que ça a été une erreur, TF1, M6? Est-ce que vous pensez que là, c'est une nouvelle page qui s'ouvre?
Alors, incontestablement, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Je pense que quoi qu'on ait pensé de ce dossier, il y a une espèce de frustration quand même qui existe sur ce secteur. Ce secteur, ça a été beaucoup dit, mais il faut quand même le redire, le secteur audiovisuel, il connaît aujourd'hui des mutations qui sont d'une violence extraordinairement forte.
Les plateformes, bien sûr.
Et d'un côté, il y a les plateformes qui renchérissent les coûts d'achat, et de l'autre, il y a moins de recettes parce qu'elles sont captées par les GAFA. Donc ça, c'est vraiment la donnée de base. Et la difficulté, voilà, c'est quel moyen face à ça.
Mais est-ce que c'est pas plus cohérent, justement, effectivement, ce que dit Apple Ces deux offres qui sont sur la table, notamment Stéphane Courby avec Saaté d'un côté, et puis Xavier Niel avec Mediaset de l'autre. Est-ce que c'est pas plus cohérent qu'un rapprochement TF1-M6 qui sont deux opérateurs? Là, quand on voit que Courby, la puissance de production qu'il y a derrière, est-ce que c'est pas plus logique, finalement, comme mariage?
C'est évidemment très, très difficile de répondre à cette question. Ce qu'il faudra, mais c'est vrai, le vrai sujet, c'est exactement celui-ci, c'est de voir que Bertelsmann, il va vendre au plus offrant. Ouais. Et en plus, il y a une échéance.
Ils ont mis 1 milliard les deux sur la table, apparemment.
Voilà. L'échéance de calendrier n'aide pas. Ça va être vraiment une opération d'abord financière. Ce qu'il faudrait, c'est ne pas oublier la dimension très industrielle, puisqu'on l'évoquait, c'est d'abord un sujet industriel. Évidemment, l'autorité de la concurrence n'a pas dans ses prérogatives de mener une politique industrielle, mais si ce rachat peut avoir un sens industriel, on sera tous très contents.
10 secondes, Marc.
Oui, juste un mot, c'est à quel point l'autorité de la concurrence est à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'on a des mesures franco-françaises et européennes, alors qu'on a un champ maintenant qui est international, et que TF1 plus M6, c'était encore un nain à l'échelle internationale.
Allez, c'est l'heure de se quitter, malheureusement, on a encore plein de choses à se dire, mais on se reverra.
Ce soir, c'est votre argent 20h, Marc, une émission exceptionnelle.
Bah oui, après un mois comme le mois de septembre, il va falloir qu'on explique tout ça.
Eh bien, ça va être super, on regardera tous ensemble et en famille, puisque c'est un programme famille. Vous pouvez retrouver Good Morning Business aussi en replay et en podcast. On se retrouve lundi, 6h-9h. On souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
Bon vendredi et bon week-end à lundi.